Et ce matin, pour le journal, c'est Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Julie, bonjour à tous. La justice saisie de l'affaire Alexandre Benalla. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonction. À l'Assemblée nationale, l'opposition a obtenu la constitution d'une commission d'enquête qui devra faire la lumière sur les aspects politiques de cette affaire. De très nombreuses questions restent posées. Comment ce collaborateur d'Emmanuel Macron a-t-il pu tabasser un manifestant le 1er mai? Pourquoi n'a-t-il été sanctionné que par 15 jours de mise à pied? Reportage de Julie-Marie Lecomte à l'Assemblée nationale dans ce journal. Nouveau rebondissement dans l'affaire Tariq Ramadan. Hier, pour la première fois, l'islamologue suisse a été confronté à Enda Ayari, qui l'accuse de viol. Les témoignages de la plaignante apparaissent mis à mal par l'enquête. Précision dans ce journal de Delphine Gocho. Dans l'actualité internationale, la première rencontre s'est à ses yeux tellement bien passée qu'il en veut une deuxième. Le président américain Donald Trump invite son homologue russe Vladimir Poutine à un nouveau tête-à-tête à la Maison Blanche, cette fois-ci pour cet automne. L'annonce fait déjà grincer de nombreuses dents. Et puis au Royaume-Uni, le parti anti-européen UKIP enregistre actuellement de nombreuses nouvelles adhésions. Nous entendrons à ce sujet les explications d'Élodie Goulesque. L'affaire est entre les mains de la justice et c'est très bien ainsi. Déclaration du Premier ministre Édouard Philippe à propos de cette explosive affaire Alexandre Benalla. On rappelle que ce chargé de mission de l'Élysée apparaît sur une vidéo en train de passer à tabac un manifestant le 1er mai dans le quartier latin. C'est Le Monde qui a révélé l'affaire mercredi soir et hier tout s'est accéléré rapidement. Depuis, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonction. À l'Assemblée nationale, l'opposition a obtenu la constitution d'une commission d'enquête qui devra faire la lumière sur tous les aspects politiques de cette affaire. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera quant à lui auditionné au Sénat dans les premiers jours de la semaine prochaine. Néanmoins, plusieurs questions obsèdent les parlementaires, notamment celle-ci. Pourquoi a-t-il fallu attendre les révélations de la presse pour que la justice soit saisie, alors même que les faits étaient connus à un niveau très élevé de la hiérarchie? Julie-Marie Lecomte.
Ils sont nombreux, les parlementaires, à invoquer, comme Valérie Rabault, président du groupe socialiste à l'Assemblée, l'article 40 du Code pénal qui fait devoir aux fonctionnaires de dénoncer au procureur de la République les crimes et délits dont ils ont connaissance.
Normalement, l'article 40 impose à chaque responsable public de le faire, et là, ça n'a pas été fait. Ça va évidemment des policiers à l'ensemble à l'Élysée.
Dans le collimateur des parlementaires, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, aux fonctionnaires. Ancien préfet, lui est vraiment un proche du président. Dans les colonnes du Monde, il reconnaît avoir vu la vidéo dès le début. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a convoqué le jour même Alexandre Benalla pour le sanctionner.
Non, je pense que le directeur de cabinet du président de la République a chaud aux fesses, pour parler simplement.
Sébastien Jumel, porte-parole du groupe communiste, pense d'ailleurs que plusieurs têtes devraient tomber.
Comment le préfet de police de Paris peut accepter qu'il suffise de se mettre un brassard pour faire le policier quand on est représentant de l'État, force de l'ordre, force du maintien de l'ordre? Ça signifie quelque chose. Il y a donc des gens qui ont couvert. On est au mois de juillet, ça s'est passé le 1er mai. Donc pendant tout ce temps, on a couvert un acte de voyouterie.
En coulisses, personne ne veut croire que tous ceux qui comptent à l'Élysée n'aient pas été informés dès le mois de mai.
Alors, ce que l'on a appris hier également, c'est qu'un autre collaborateur de l'Élysée est également mis en cause dans cette affaire, Vincent Crase. Lui aussi était présent sur les lieux le 1er mai dernier. Et Antoine Marette, avec Alexandre Benalla, ils se connaissent bien.
Sur la vidéo qui fait tant parler d'elle, on aperçoit Vincent Crase, crâne rasé, lunettes de soleil sur le front, saisir un manifestant, le traîner et lever la main sur lui comme pour le gifler. Et c'est ensuite Alexandre Benalla qui prend la relève, frappant à plusieurs reprises ce même manifestant. Alexandre Benalla porte alors un casque à visière des forces de l'ordre. Les CRS assistent à la scène sans s'interposer. Et pourtant, ces deux hommes qui participent de façon très musclée aux opérations de maintien de l'ordre ne sont pas des leurs. Ils sont collaborateurs à l'Élysée et ont demandé à assister à l'intervention des forces de l'ordre. Car l'un comme l'autre s'intéresse de près à ces questions. À seulement 26 ans, Alexandre Benalla travaille depuis plus d'un an pour Emmanuel Macron. Il a été responsable de sa sécurité pendant la campagne présidentielle. Il est lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de gendarmerie, un poste purement honorifique. Vincent Crase, lui, est un gendarme réserviste, employé de la République En Marche, mobilisé à l'occasion par le commandement militaire de la présidence de la République. Ensemble, ils ont tenté de commander des armes non létales, comme des pistolets en balles à caoutchouc, afin d'équiper le service d'ordre de LREM, avant d'être réfrénés par des responsables du parti. Tous deux ont travaillé dans la sécurité privée. Ils ont d'ailleurs créé ensemble en 2016 une très éphémère Fédération française de la sécurité privée. Dans ses statuts déposés à la préfecture, cette FFSP entendait régler les différends entre les professionnels de la sécurité et les pouvoirs publics.
À noter enfin que l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, a été saisie dans cette affaire par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Il souhaite que soient précisées les règles pour l'accueil et l'encadrement des observateurs et, s'il en existe, de vérifier dans ce cas précis qu'elles ont été mises en œuvre.
Une autre affaire judiciaire au menu de votre journal, Ilan Malka, et qui a connu hier un nouveau rebondissement.
Oui, c'est l'affaire qui concerne Tariq Ramadan. Hier, pour la première fois, l'islamologue a été confronté à Enda Ayari dans les bureaux du juge d'instruction. Enda Ayari a maintenu ses accusations. Elle affirme toujours avoir été violée par le théologien suisse à Paris en 2012. Mais de nombreuses contradictions ont été notées par les enquêteurs dans ses déclarations. Elle a notamment changé de date au cours de ses différentes auditions. Delphine Gocho.
Lors de sa première audition, elle avait évoqué une date située entre le 31 mars et le 8 avril 2012. Puis Enda Ayari était revenue dans le bureau des juges avec son agenda. Elle leur avait montré la date du 26 mai et cette annotation « Crown Plaza ». Mais les policiers qui ont cherché à vérifier cette hypothèse ont découvert que la quadragénaire était à cette date-là au mariage de son demi-frère. Ces accusations s'effondrent, estime Emmanuel Marcini, l'avocat de Tariq Ramadan.
Il n'y a plus de dossier la concernant, il n'y a plus de date, il n'y a plus de lieu. Et les mensonges de Mme Ayari font nécessairement s'interroger sur la crédibilité totale de son récit.
Mais pour l'avocat d'Enda Ayari, ce n'est pas parce qu'elle se trompe de date que les faits qu'elle dénonce ne sont plus crédibles. Pour Francis Piner, le traumatisme de sa cliente explique notamment ses variations.
Dire que tout cela s'effondre est faux. Elle n'est pas venue chez la juge en disant « croix de bois, croix de fer, je suis absolument certaine que ça s'est passé le 26 mai ». Ça ne change rien aux accusations qu'elle a maintenues devant M. Ramadan dans la même pièce. Elle était au rendez-vous que la justice lui a fixé et elle a fait face.
L'avocat Tariq Ramadan attend lui une réponse des juges à sa demande de remise en liberté de son client en détention provisoire depuis 6 mois.
Delphine Gocho. Dans l'actualité internationale, Donald Trump sait qu'il joue à nouveau la carte de la provocation, mais il assume. Le président américain invite Vladimir Poutine à une nouvelle rencontre en tête-à-tête qui devrait donc se dérouler à l'automne, cette fois-ci à la Maison-Blanche. Alors les réactions ne se sont pas fait attendre. La dernière rencontre entre les deux hommes il y a quelques jours à Helsinki avait provoqué un véritable tollé. Dan Coats, directeur du renseignement national, a exprimé ses réserves quant à cette nouvelle rencontre donc en tête-à-tête, tout comme Chuck Schumer, président du groupe démocrate du Sénat, qui est estime, jusqu'à ce que nous sachions ce qui s'est passé lors de cette réunion de 2 heures à Helsinki, le président ne doit plus avoir d'interaction individuelle avec Vladimir Poutine.
Vous écoutez France Culture, il est 7h07. Le Pérou est le théâtre en ce moment d'une grave crise judiciaire, Ilan Malka.
Le président de la Cour suprême a présenté hier sa démission. Il y a 3 jours, c'était le président du Conseil national de la magistrature qui avait présenté la sienne. En cause, des enregistrements compromettants. On y entend des juges qui monnayent des peines. Une session extraordinaire du Parlement doit avoir lieu aujourd'hui pour poser les jalons d'une profonde réforme judiciaire au Pérou. Au Royaume-Uni, le UKIP semble reprendre des couleurs. Ce parti anti-européen est passé par bien des tourments depuis le vote du Brexit. Il avait admis avoir publié des chiffres erronés concernant le coût de l'adhésion à l'Union. 4 leaders se sont ensuite succédés à sa tête. Alors depuis l'annonce du plan de Brexit de Theresa May récemment, le parti semble donc enregistrer une hausse du nombre de ses adhérents. Les précisions d'Élodie Goulesque.
Ils étaient 1000 en juin et près de 2500 en juillet à rejoindre les troupes de UKIP. Une hausse des adhésions liée selon ce parti bien à droite à l'incompétence du gouvernement de Theresa May de délivrer un Brexit acceptable. Face au chaos gouvernemental et aux divisions du parti travailliste, Gawain Towler, directeur de la communication du parti, explique que UKIP est une alternative.
Oui, les gens nous rejoignent et pensent que ça vaut la peine de nous soutenir. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais ce mouvement et ce changement ont commencé.
Un nouveau UKIP en quelque sorte. Récemment, le parti britannique a recruté 3 nouveaux membres considérés d'extrême droite et très présents sur les réseaux sociaux. Le parti veut s'orienter de plus en plus vers ce genre d'outils pour propager ses idéaux tout en clamant de ne pas se laisser piéger par le jeu des fake news.
UKIP a été la victime de nombreux fake news depuis ces dernières années. Donc nous savons les identifier. Mais bien sûr, nous faisons attention à cela et nous faisons en sorte que les gens puissent croire ce que nous avons à dire.
Reste maintenant à savoir si le parti va continuer sur cette lancée ou s'il ne s'agissait que d'un élan de contestation face au gouvernement actuel.
Le temps d'aujourd'hui sera instable avec des ondées et des orages qui iront du sud-ouest au nord-est, tandis que le soleil résistera sur la Provence et sur la Corse. Les températures de ce matin partiront de 19 en Bretagne et monteront jusqu'à 29 en Occitanie. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Il a été réalisé à la technique par Alex Dang.